Bienvenue dans l'heure du documentaire et dans l'univers des amateurs de Polaroid. Ce procédé photographique populaire à image unique a fait suite au daguerréotype, à l'ambrotype ou au ferrotype. Pour Céline Develet, dans la famille photographique, il fait figure de dandy de l'argentique. Un dandy poète et poseur qui plaît aux artistes, que ce soit Warhol, Walker Evans, Mapplethorpe ou Patti Smith. Car même raté, un polar raconte quelque chose. Et en plus, il demeure, contrairement aux images numériques si facilement effacées, au bénéfice d'une esthétique de la perfection ou de la retouche. Dans la famille Develet existe du reste une grande boîte où sont rangées ces photos qui enchantaient toute la famille en une performance qualifiée par les publicitaires américains de « lubrifiante ».
Ah, regardez comme celui-là, il est beau. Ça, c'est le plus beau.
Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est un SX70, mais couleur fauve.
Alors, SX70, appareil mythique Polaroid.
Oui, oui.
Lancé dans les années 70.
Le design du SX70, c'est extraordinaire. C'est beau ce bruit, hein ? Il y a une mécanique. On va mettre une pellicule.
Alors.
C'est beau ça. Hein ? Voilà. Et ça, c'est le black tap qui permet de protéger la première image. Je vais vous prendre en photo. Mystère. La révélation, on va attendre. Alors, il y a un geste qui est extraordinaire aussi. En général, là, vous ne bougez pas, c'est très bien, parce qu'il ne faut pas bouger. Mais en général, les gens agitent l'image pour la faire sécher. Et là, l'image se révèle. Alors, flou. Flou.
Très flou.
Très flou. Très, très flou. Pas suffisamment d'éclairage, parce que le SX70 n'a pas de flash. Donc on est à l'intérieur. Ensuite la pellicule, elle est sans doute en péremption largement dépassée. Et puis il fait froid, donc on est dans des teintes bleutées. On est en hiver.
Mais en même temps, je l'aime bien.
Ah bah oui, bah voilà. C'est ça la magie.
Est-ce que je peux moi-même vous prendre en photo ?
Oh bah bien sûr. Ah oui, ben voilà, c'est ça l'échange. C'est
là-dessus je fais le.
Oui, vous appuyez pour déclencher.
Paula, je t'aime. Céline Develet-Mazurel et Yvon Croisier. Noël 1943. Une petite fille pose devant l'objectif de son père et s'étonne de ne pas voir le résultat tout de suite. Le père, Edwin Herbert Land, fondateur de la Polaroid Corporation en 1937 et inventeur des films polarisants, s'en va marcher quelques heures. Le temps de poser les bases du procédé de la photographie instantanée, le Polaroid. Ainsi commence donc l'histoire, par une impatience enfantine. L'histoire du Polaroid, c'est celle d'une génération issue du baby-boom, artiste ou amateur, qui adopte et chérisse le Pola, son image accidentelle, son cadre blanc, et son déclic au bruit incomparable. C'est l'histoire d'un compagnon de route, d'un miroir de poche, reflet de nos vies imparfaites et parfois ratées, une histoire d'amour en somme.
Les premiers tests ont démarré en 45. Donc il y a eu des premières images un peu sépia qui ont été révélées en 45. Mais la commercialisation date de 47. Et là, ça fait le scoop de l'année, parce que créer la magie avec une photo qui se développe immédiatement. Alors bien sûr, ce n'était pas la photo qu'on connaît avec un film intégral comme aujourd'hui. C'était des rouleaux qu'il fallait développer. Développer instantanément, bien sûr, mais malgré tout, et dont il fallait fixer l'image, parce que l'image, si elle restait telle quelle, elle s'altérait, et ça a fait la mauvaise réputation des photographes de rue qui, pour aller plus vite et pour vendre le plus possible d'images, oubliait de laquer la photo. C'était le petit bâton de lac qui sentait très fort, qui n'était pas très agréable. Je ne sais pas si vous avez connu. Voilà.
Alors vous, Marie-Christine Guyot, vous avez travaillé plus de 20 ans oui. à Polaroid,
oui.
25 ans.
Oui.
Donc vous avez connu, vous avez traversé toutes ces époques de cette création, alors pour le coup, de 47.
Oui.
À l'époque, vous ne travailliez pas à Polaroid.
Je n'ai pas connu les grandes années du développement en Europe, hein, parce que ça a été une explosion. Dans les années 50, les années 60, tout le monde faisait du Polaroid. Et alors, il y a eu des utilisations un peu cachées, comme la photocoquine, qui a été importante pour le développement de Polaroid, parce qu'il était impossible de développer des photos érotiques familiales, entre guillemets, parce que les laboratoires n'avaient pas le droit de les développer. Donc ça fait une explosion dans l'utilisation de la photo instantanée. Et puis, bien sûr, il y a eu après toutes les utilisations professionnelles. Le cinéma était grand consommateur de Polaroid. Le casting, c'était des Polaroid. La script, elle faisait tous ses raccords avec du Polaroid. C'était l'outil, c'était un outil. Après, il y a eu d'autres milieux qui ont utilisé le Polaroid, comme les antiquaires, comme les assurances, comme l'immobilier, les agents immobiliers, photographier les maisons, les appartements.
Et alors après l'invention du procédé instantané en 47 et son lancement, il y a eu après, surtout, et c'est là où le Polaroid est devenu vraiment grand public, c'était la couleur.
Ah oui. Parce qu'on est passé très très vite à l'image en couleur, avec des améliorations. Alors ça a été très très progressif, l'amélioration de la technique. Parce que le Polaroid, c'est une matière vivante. Contrairement à toutes les autres techniques d'image, la révélation de l'image se fait au moment de la prise de vue. Enfin, vous faites la prise de vue et l'image sort de l'appareil. Il y a des petits rouleaux à l'intérieur de l'appareil qui écrasent une gousse de chimie et qui la répand sur l'image pour créer le développement des pigments. Et la couleur apparaît. Donc c'est l'utilisateur qui est acteur du développement de l'image.
Souriez ?
Où est la photo ?
Il faut porter le film à développer.
Alors pas de photo ?
Maman !
La voilà, ta photo !
Avec le Polaroid 1000, c'est si simple d'avoir de belles photos couleurs en quelques minutes.
Super !
Polaroid 1000, l'appareil le plus simple du monde.
Philippe Garcia, vous êtes photographe professionnel, auteur d'un ouvrage consacré au Polaroid. Ça se maîtrise vraiment, le Polaroid ?
Il y a une partie qui se maîtrise et il y a une partie qui reste toujours aléatoire parce que le développement instantané, il est conditionné par beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas toujours contrôler. Les films sont très sensibles à certaines variations de lumière, et ils sont sensibles à la température parce que le développement normalement doit se réaliser à une certaine température qu'on n'a pas toujours quand on est sur le terrain. Donc on peut être amené à développer ses films dans le froid et ça va donner un effet spécial sur les images, ou alors dans le chaud, ou alors avec l'humidité, ou alors avec des films qui sont un peu vieux ou qui ont été mal stockés, qui vont un peu se coller ou sur lesquels il y a une partie de l'image qui peut éventuellement ne pas bien se développer, etc. Donc c'est vrai qu'on a toujours une part d'aléatoire, mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette émulsion, parce qu'on a... On peut maîtriser une certaine partie du résultat, mais on a toujours une petite surprise quand on voit apparaître l'image.
Quand on voit un Polaroid sortir de l'appareil, mmh. on a l'impression que c'est un peu magique. D'ailleurs, souvent, Polaroid a communiqué autour de ça, autour du côté magique, ouais. de la révélation de l'image qui apparaît en instantané. En même temps, c'est pas si magique que ça, c'est plutôt même très technique.
Ah ben oui, complètement. Ben, comme dans tous les tours de magie, il y a surtout beaucoup de maîtrise et beaucoup de technique derrière. C'est une feuille de papier négatif photo qui est exposée par l'appareil. Cette feuille est collée à une deuxième feuille de papier positif, donc qui va recevoir l'image. Et entre les deux, il y a une petite enveloppe étanche qui contient le produit, le révélateur. Et l'astuce, c'est qu'au moment où la photo est éjectée de l'appareil, en fait, elle passe à travers deux rouleaux qui écrasent la petite poche de produit.
Ce qui fait le bandeau blanc au
voilà,
bas.
C'est dans la partie blanche en bas de l'image que la pochette est cachée. Et donc, en sortant de l'appareil, ça écrase la pochette et ça étale le produit entre les deux feuilles. Et la réaction se fait et elle dure 2 minutes, je crois, pour être totale. Et puis, au bout de 2 minutes, l'image est apparue sur le positif. Et puis, ça reste quand même assez mystérieux, le résultat souvent des photos qu'on prend.
On a eu quand le Polaroid ?
Le Polaroid, écoute, on l'a eu un cadeau de Noël. Il vous a été offert par vos grands-parents, Noël. Quel Noël, par contre
Je te dis, moi, je devais avoir une dizaine d'années, donc peut-être en 85, 86, quelque chose comme ça.
Ça y allait d'ailleurs, hein. Parce que pellicules, ce n'était pas donné.
C'était cher,
je me rappelle.
Ouais. Ouais, c'était 100 francs.
Ouais.
Les 10 photos.
Donc,
les 10 photos, c'était.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un sacré budget Polaroid. Hein. Vous étiez sympa parce qu'on faisait un peu n'importe quoi aussi parfois.
Ils sont où d'habitude les Polaroids de la famille Labadie, je me demandais.
Alors, dans une boîte tout pêle-mêle.
Oui, c'est un gros
et puis l'avantage, c'est qu'on a des surprises parce qu'on trouve des choses comme ça qu'on avait oubliées. On remue, on remue.
Et une surprise.
Oh,
tiens.
Oh.
Par exemple.
C'est qui
ça, c'est Pauline.
La petite dernière.
Alors, et elle, on l'a pris en photo, on l'a bien mitraillée. Oh, oui. Hein.
C'est toi qui l'as pris, celle-ci, maman.
Ça, c'est maman qui l'a prise.
Oh,
ouais.
Sûrement. Oui.
Ouais. Ouais.
Mais vous en avez des dizaines et des dizaines, vous en avez fait tout le temps.
C'est pas toutes là.
On en faisait souvent, ouais.
Enfin,
on en faisait assez souvent. Je pense que maman, elle achetait une pellicule, je sais pas tous les combien, mais assez régulièrement, quoi.
Mais le truc, c'était le bruit déjà que ça faisait.
Et après. Il y avait le fait d'attendre, fallait secouer, on soufflait dessus. Enfin, il y avait le côté surprise aussi qui était sympa, quoi. C'était assez jouissif, en fait, comme truc.
Et puis, même si elle était loupée, on était contente en général.
Mais elles sont floues souvent en fait les photos.
Oui. Mais elles sont très claires là.
Ou puis des fois on soignait pas trop là.
Non. Dans le cadrage.
Le cadrage, hein, on était un peu trop près, c'était pas très professionnel alors.
Mais ça marchait quand même en fait.
Là c'est quoi comme moment par exemple ?
Ça c'est Pauline qui allait à une fête, je crois.
Non, non,
c'était la fête de l'école ou quoi, et elle était déguisée en lapin. Donc elle est là avec son petit déguisement de lapin.
Voilà.
Trop mignonne.
On aimait bien en fait se mettre en scène.
Ouais.
On a vu une idée, on avait envie de rigoler. Chacune faisait ce qu'elle voulait faire. L'autre la prenait en photo. Et puis c'était chacune son tour. Donc là, tu es déguisée en sapin de Noël. Hein.
C'est magnifique.
Il y a eu un cadeau pour chacun. Mais il y en a un qui a fait plaisir à tout le monde. L'appareil Polaroid Color Pack 80. De magnifiques photos couleurs développées en une minute. Ou des photos en noir et blanc en 30 secondes. Des photos pour tout le monde, pendant que tout le monde est là. Et chacun emportera avec soi un peu de cette journée en famille. Le prix aussi vous fera plaisir.
Et ça a été tout de suite un grand succès, le Polaroid couleur ?
Oui, oui. Parce qu'il est apparu avec un appareil qui était l'appareil 1000 et qui a été l'appareil le plus vendu au monde. L'appareil 1000 était un appareil très économique, très très économique. Parce que évidemment, ce qui était cher chez Polaroid, c'était le consommable, donc la pellicule. Il fallait développer des appareils très très économiques pour séduire le public.
Et c'est ce qui a fait aussi ce succès du Polaroid ?
C'est un outil de communication. C'est un liant social. Parce que quand vous sortez un Polaroid, vous êtes dans un endroit, enfin dans une pièce où sont réunies des personnes qui ne se connaissent pas. Vous sortez un Polaroid et vous faites des photos. Et immédiatement, les regards, tous les regards se tournent vers l'image qui va se développer. Et la sympathie, l'empathie se crée. Et ils peuvent discuter autour de l'image. Ça ouvre des portes, le Polaroid. Et puis vous donnez quelque chose. C'est très généreux, le Polaroid. Ça ne peut pas... Ça invite au partage. Et c'est ça qui fait que le lien se crée très, très rapidement. Il n'y avait pas un mariage, un baptême, une communion. C'était vraiment l'outil de toutes les occasions de la vie familiale. Hein. C'était par exemple le cadeau que les enfants offraient pour la fête des mères et la fête des pères. Il était complètement rentré comme... Il était très démocratique. Parce que la photo n'était pas d'une qualité extraordinaire, pas toujours, hein. Et puis, il fallait avoir un petit peu de connaissance, effectivement, de cette chimie pour savoir bien l'utiliser. Mais on s'en moquait. Finalement, c'est ça le côté sympathique du Polaroid, c'est qu'on ne recherche pas une qualité extrême, on cherche à se faire plaisir et à donner et à offrir et à échanger.
Donc finalement, ça reste ce que vous disiez, un moyen de communication.
Oui, oui. Un social lubricant. C'était le mot inventé par les agences de communication américaines. Social lubricant. Un lubrifiant social. C'est pas très beau comme expression. C'est pas heureux. Mais c'est vrai que c'est parlant, en tout cas.
Louis, vous êtes consultant ?
Civil.
Ouais. Et vous êtes amateur, comment on dit, de Polaroid, polaroïdomane
Amateur, ouais. Ouais. Passionné, on va dire. Voilà.
Et vous, ça fait combien de temps que vous faites du Polaroid comme ça, en amateur ?
On va dire que j'ai pris le virus il y a 3 ans, et malheureusement, ça augmente, quoi. C'est-à-dire que plus on en fait, plus on a envie d'en faire.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que... Le fait que Polaroid ait arrêté de produire sous sa marque des films a rendu, on va dire, l'utilisation de ces appareils et de ces films un peu exclusif, et quelque part voilà, la recherche des vieilles pellicules qu'on peut plus obtenir aujourd'hui est quelque chose d'assez grisant, parce qu'on a des résultats en matière de rendu photo qui n'ont rien à voir avec le numérique qui a envahi maintenant tout le marché.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le Polaroid ?
Beaucoup de choses. Le côté vieillot et surtout imprévisible de la photo. L'attente du cliché quand il est en train de se développer. Donc il y a un côté vraiment hasard, surprise, qui est sympa. Enfin, il y a beaucoup d'excitation associée au déclenchement, au fait de découvrir la photo se développer sous ses yeux. C'est des petites vieilleries aussi, parce que pour des appareils qui sont vieux d'une trentaine d'années et qu'on trouve plus dans le commerce, c'est sûr que c'est des objets de collectionneurs. Donc il y a un côté collectionneur qui rentre en ligne de compte. Mais le caractère unique, on va dire, de la photo Polaroid lui donne aussi sa saveur, je dirais. C'est un côté, petit objet à soi.
Moi, j'ai pris un Polaroid. Alors, je vais peut-être vous décevoir parce que c'est un appareil plutôt récent. Donc, c'est un Polaroid One 600. Voilà. J'ai des films.
Ouais.
Donc, je vous en demanderai pas parce que je sais que ça coûte cher.
Ouais, ok.
Ça se demande pas d'ailleurs entre gens de Polaroid. Est-ce que tu pourrais...
On va dire que maintenant, on a moins l'occasion de croiser quelqu'un avec un Polaroid. C'est un côté maintenant un peu unique. Si vous le sortez dans la rue, dans une rue où il y a du monde, vous êtes sûr de vous faire arrêter. Sûr. Parce que ça rappelle des souvenirs aux gens et on n'en voit plus.
Donc là, j'en ai un avec moi.
Ouais.
Je vous prends en photo. Après, est-ce qu'il faut un dispositif, une mise en scène ?
Pas forcément. Il y a une approche artistique, c'est sûr, quand on essaie de mettre en scène, quand on essaie d'avoir une bonne exposition, etc. Mais le côté point and shoot, comme on dit, donc pointer et shooter, c'est le plaisir aussi du Polaroid, spécialement en soirée ou voilà, de manière un peu imprévue. Les Polaroids surprises sont parfois très bons.
Bon, là, je ne vous prends pas surprise, mais alors, je vais faire comme vous dites. Point and shoot, c'est ça ? Il faut parler anglais ?
Pas forcément.
Je vais même en faire deux. Une pour vous et une pour moi.
Oui, vous voulez en refaire. C'est déjà un bon signe, non ?
Non, mais c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se partage.
Exactement. Exactement. on le donne tout de suite. C'est un cadeau instantané. Alors là, avec les enfants, ça fait fureur.
Mais vous, quand vous étiez petit, vous aviez un Polaroid ?
De mémoire, j'avais pas de Polaroid. J'avais un vieil appareil à rouleau, Kodak, Instamatic Camera.
Bon, allez, on essaye. Ah, vous avez fait une grimace.
Ah ouais, bah c'est... c'est pour que vous ayez un bon souvenir.
Marion Duby-Clerc, vous êtes photographe et vous travaillez quasi exclusivement au Polaroid, c'est ça ?
Tout à fait. J'ai fait mon deuil donc il y a 2-3 ans quand ils ont annoncé la fin. J'ai été jusqu'au bout du SX70, j'ai réussi à passer au 600 en mettant un filtre devant l'objectif. Et là, donc ils avaient annoncé la fin du 600. Donc entre durant ces deux années en fait passées, je me suis mis un petit peu au numérique, mais tout en essayant de trouver un traitement qui se rapproche toujours du Polaroid, toujours au format carré. Enfin, j'ai trafiqué sur mon appareil pour avoir toujours un format carré et puis essayer de reproduire, enfin, si c'est possible, un petit peu le grain, de retrouver, enfin voilà, de bidouiller pour arriver à retrouver un peu l'esprit du Pola.
Et justement, c'est quoi l'esprit du Pola ?
L'instantanéité. Tout ce qui va avec, enfin le snapshot quoi. Moi j'aimais bien travailler avec le Pola justement parce que ça c'était adapté à mon mode de fonctionnement en photographie quoi. C'est-à-dire que je l'avais tout le temps sur moi, n'importe quel jour, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, quand je rentrais de soirée ou quoi, je pensais qu'à ça tout le temps et c'était hyper facile. Hop, je l'attrapais, je faisais ma photo, voilà. Donc c'était un petit peu mon fonctionnement avec le Pola, je l'adorais, hein, je l'adore. Non, c'est vrai, j'adore l'objet, je le trouve beau déjà, fermé, ouvert, le bruit, le format, tout, j'aime tout, la couleur. Vu que c'est mon amoureux qui me l'a fait découvrir, en fait c'est la première fois aussi où j'ai fait mes premières belles photos, si je peux me permettre. Enfin, je trouve toutes mes photos belles, donc... J'ai fait mes premières belles photos. Donc du coup, voilà, il y a un espèce d'engouement où en fait, voilà, c'est un peu la libération, quoi. Avec cet appareil, waouh, j'arrivais à faire des super photos. Et voilà, en fait, le fonctionnement de cet appareil colle complètement avec mon fonctionnement à moi. Du coup, c'était la révélation, quoi. C'était un peu la révélation. Et c'est pour ça que j'avais ce rapport avec cet appareil si particulier.
Finalement, c'est un peu avec le Polaroid que vous avez commencé à vous sentir vraiment photographe.
Ouais, c'est ça. Très belle analyse, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais. Ben en fait, voilà, oui. Et c'est ce qui m'a donné confiance. C'est aussi à travers ces photos-là où j'ai eu confiance en moi et je me suis lancée.
Et les premières images, c'était vos filles ?
Alors, les premières images, donc, c'est en effet sur la plage avec mes filles. Au Rosel, ma mère a un mobilhome dans un camping sur la côte sauvage, donc c'est sublime. Et comme personne ne va en vacances là-bas parce que c'est à côté de Cherbourg, en l'occurrence cette année-là il a fait hyper beau et donc c'était génial quoi, parce que c'est là où j'ai fait mes premières photos de plage.
Et donc c'est des grandes étendues finalement très vides avec deux personnes au milieu ou sur le côté. Deux petites fesses toutes nues, là, les enfants.
On reconnaît mes filles. Bah, en fait, aussi, ça correspond à la mort de mon père. Il est mort au mois de mai et j'ai fait ces photos-là au mois de juillet. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu aussi un côté nostalgie. Notamment le couple qui part comme ça, là. On peut se dire, ils sont tellement vieux avec une canne qu'ils peuvent partir au paradis. On peut s'imaginer, vu les couleurs. La mer se mélange avec le ciel. Et de dos, parce qu'en fait, j'osais pas à l'époque. Maintenant, j'arrive à faire des portraits au bout de 4 ans où vraiment je suis à l'aise avec les gens avec qui je photographie. Mais là, c'était un peu des images volées. Enfin, oui, on peut le dire. Puisqu'on voit souvent les gens assez loin et de dos. Notamment, là, voilà, la fille qui regarde son père.
Qui est en train de pêcher en slip avec la marque de maillot de bain. et ils sont juste tous les deux dans le cadre et il y a l'immensité de la mer. Mais finalement, on ne distingue pas très bien le ciel, la mer, le sable, tout est très vert.
Et ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait, dans le Polaroid, du fait des, les gens ont beaucoup été pris en photo avec le Polaroid quand ils étaient petits, enfin, les gens qui ont mon âge à peu près. Et du coup, j'aime ça, enfin, j'aime ce côté de partage avec les autres. Et le fait voilà, de pouvoir s'identifier, de se faire des films autour des photos, quoi, de se raconter des histoires.
Jusqu'à mon arrivée chez Polaroid, la photographie instantanée n'était pas pour moi de la vraie photographie. C'était une anecdote aussi. Mais je ne la considérais pas comme, comme une œuvre d'art, par exemple. Et en 3 ans, j'ai complètement changé de point de vue parce que l'utilisation qu'on en fait peut-être extraordinaire, ouvre des champs de curiosité infinis parce que les applications, enfin les utilisations sont tellement ouvertes. Vous avez le reporter qui utilise le Polaroid, ben justement comme lien social. Vous avez l'artiste dans son laboratoire qui fait des expériences en chauffant la pellicule, en la refroidissant, en passant le séchoir à cheveux, et des expérimentations très poussées. Vous avez aussi les manipulateurs qui décollent l'émulsion et la mettent sur un autre support, comme du papier aquarelle. Comme... Donc on obtient des effets picturaux. Y a des quantités de mythes autour de l'image Polaroid, parce qu'on a parlé même de révélations, d'images subliminales qui viennent apparaître sur voilà, des halos, des... Oui, oui, bien sûr. Et ça a été exploité par les artistes. Tous les artistes ont développé une part de l'originalité du Polaroid qui est due à cette chimie vivante, à cette molécule vivante qui est contenue dans l'image elle-même.
Vous, Marie-Christine Guyot, c'était quasiment votre mission de plaider aussi la bonne parole du Polaroid auprès des écoles d'art.
Bien sûr.
Vous avez beaucoup participé à ça, à finalement donner des films, des appareils photos à des artistes, à des célébrités.
Bien sûr. Et là, j'avais une grande liberté pour aller montrer les différentes utilisations du Polaroid, alors les transferts d'images, les décollements d'émulsions, comment on pouvait pousser à l'extrême l'utilisation du Polaroid. Ça, c'était une mission qui était largement favorisée. Et c'est vrai que le caractère unique du Polaroid en fait une pièce un peu à part. Dans les ventes aux enchères de photographie, Polaroid atteint des cotes assez exceptionnelles. Et ça, la part unique de l'image qu'on ne peut pas dupliquer, intéressait les artistes. Tous ont utilisé... cette spécificité de l'image unique.
Vous, Michel Nourizzani, vous êtes écrivain, critique d'art, et vous avez été commissaire d'une exposition dans les années 80 en 85,
85.
Qui s'appelait Génération Polaroid. Et alors justement, est-ce qu'il existe vraiment, est-ce qu'a existé une génération Polaroid, comme on l'a appelée ?
Oui, j'ai l'impression, parce que je pense que c'est un moment que... Le Polaroid est né en 47, mais il a été employé beaucoup, beaucoup plus tard, mais exactement comme la photographie qui a été inventée en 1839 et dont on s'est servi presque 100 ans plus tard d'une façon intéressante. Donc je trouve que ce qui est important à dire, c'est que une innovation technique n'implique pas automatiquement une utilisation intéressante. Et donc là, le Polaroid est arrivé en 47. On peut dire qu'on a commencé à s'en servir 30 ans plus tard. Et qui est-ce qui a commencé à s'en servir? Ce sont vraiment les amateurs. Bon, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que aussi certains artistes l'ont utilisé, notamment Warhol, Ben à sa façon très marrante, Alain Fleischer, Dieter Roth, on peut citer aussi Luciano Castelli, justement dans une pratique assez érotique, Sarkis, Richard Hamilton, De Gotex, David Hockney, tous ces artistes, plus d'autres que j'oublie, et aussi, ce qui est intéressant, des écrivains comme Maurice Roche, comme Jean Dève, et même Rob Grillet, là aussi dans une pratique un peu érotique. Donc, si vous voulez, là, ça correspond à une époque, 85, et je pense qu'à partir de 90, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe avec le Polaroid, et je pense que ce qui a intéressé les artistes dans le Polaroid, c'est tous les accidents qui étaient possibles. Et le côté, j'ai envie de dire, photographie moche. Si vous voulez, quand vous regardez les photographies de Boltanski des années 70, ce qu'il cherche avant tout, c'est une photographie assez ratée. Alors que dans la photographie, comme ça passe par un tirage, on cherche à faire en sorte que ce soit réussi. Il y a un côté artisanat d'art dans la photographie. Alors on peut toujours la détourner, mais c'était marrant de la détourner avec le Polaroid au moment où on tirait la photographie hors de l'appareil lui-même.
Et justement, pour vous, ça n'a pas créé une esthétique, ça n'a pas influencé les générations actuelles qui retrouvent le Polaroid, peut-être par nostalgie
La nostalgie en art n'est jamais très bonne conseillère. Je pense franchement que c'est lié à une certaine époque. Mais j'ai l'impression qu'après, d'autres choses sont développées. Le Polaroid n'avait plus sa place. Moi, je pense que toute l'histoire de l'art montre que quand il y a une nécessité, on revient en arrière si c'est nécessaire. Mais il faut qu'il y ait une nécessité. Alors que si c'est la nostalgie, comme vous dites, là, c'est pas, à mon avis, une nécessité. C'est autre chose.
Aujourd'hui, des gens cherchent à sauver le Polaroid. C'est-à-dire qu'il y a une petite élite parisienne qui s'en empare, issue du monde de la mode souvent, et qui a fait renaître dans l'esthétique, dans les journaux, le Polaroid, justement.
Pour tout dire, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça n'intéresse pas les artistes non plus. Je pense que ceux qui s'intéressent à ça, de la façon que vous dites, sont des gens qui sont para-artistiques. C'est-à-dire que dans la mode, on s'en sert, ça ne m'étonne pas. Mais si vous voulez, c'est très souvent dans la mode, on en a en retard de 20, 30 ou 40 ans. Sur le plan, sur les vrais artistes qui inventent.
D'accord.
Pardon d'être un peu dur.
En tout cas, on sent que le Polaroid, dans les pratiques amateurs en tout cas, on sent que le Polaroid donne un cachet artistique. Chacun se sent un peu artiste avec le Polaroid.
Quand quelqu'un va sur les quais et fait une photo avec une branche d'arbre qui dépasse et qui vient lécher le haut de la photo, il se sent artiste aussi. Donc, si vous voulez, c'est un peu étrange tout ça, que les gens se sentent artistes quand ils font certaines choses. Pourquoi pas, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont?
Alors, verdict des images, puisqu'il y a eu la révélation entre-temps.
Ben, on voit que je suis plutôt gêné sur la première, alors que la deuxième, je me suis dit ok.
Et il y a aussi le Polaroid dans la deuxième.
Ah bah oui, le Pola dans le Pola, bien sûr. Mais là, on pourrait en parler des heures, hein, de tout ce qui est effet photo lié au Pola, où on prend un Pola, et puis un Pola d'un Pola, puis etc., le Pola du Pola du Pola. On peut associer des polas les uns à côté des autres pour en faire des séries ou faire des puzzles, où il y a un côté ludique aussi. C'est un peu le Lego de la photo, hein, quelque part. C'est simple, c'est assez enfantin, il n'y a pas trop de questions à se poser, il y a un bouton sur lequel appuyer, et derrière, bah, on peut jouer avec. On peut associer des polas qui n'ont rien à voir et on a des compositions sympas. Ouais, il y a un côté un peu artiste du dimanche, c'est sûr. Je le revendique. Bon, en ce moment, je sais que j'adore photographier des statues. Alors, je sais pas pourquoi, mais le rendu Polaroid, quand on prend des statues en photo, je le trouve très sympa. Voilà, ça passera à d'autres choses plus tard. Mais ouais, il y a une approche perso. J'ai mon compagnon, je vois quelque chose qui me plaît, je le sors, tac, je déclenche. Et puis j'ai 3-4 photos, j'ai fait une bonne balade, je reviens à la maison. Et puis voilà, c'est des petits plaisirs simples en fait. Je pense que le Polaroid, c'est un petit plaisir simple.
Alors là, je ne sais pas qui a pris la crèche de Noël en photo, mais c'était pas obligé. Elle est toute floue, prise de trop près, mais ça a dû rendre heureux quelqu'un.
Oui, c'est à Noël ça.
Et il y a qui derrière? Est-ce qu'il y a des grandes
c'est
personnes dont on ne voit pas la tête?
C'est notre père hein, qui a la tête coupée. Quoi. On voit, en fait, on voit juste Pauline.
C'est
l'homme
jambe.
Là, cette photo, je dois saluer quand même celui qui l'a cadré.
Mal cadré, c'est difficile.
Oh là là.
Je crois que c'est toi, maman, mais je ne peux pas non plus trop m'avancer.
Fort, là, ouais.
Oh non! Ça, c'est dans le camion. C'est exemple d'une photo d'une photo qu'on n'aurait jamais prise avec un autre appareil. C'est dans le camion dans lequel on voyageait, le car Volkswagen.
On traversait l'Espagne.
Mais là, on allait à Tarnos, là, par contre. Parce que là, il y a Felicity sur la photo.
Ouais, c'est vrai.
Et on dort comme des gitans, quoi. On était toutes derrière, là, parce qu'il n'y avait pas de siège passager. En fait, il y avait juste le siège conducteur et deux sièges à côté. Et du coup, on avait mis un matelas par terre et on voyageait comme ça, quoi. Et là, on est prise en train de dormir avec les vestes de mon père qui pendent au-dessus.
C'était vraiment la caravane.
C'est génial.
Et de tout ça, vous n'avez aucune autre trace que sur ces pots-là?
Non, c'est vrai.
Le car Volkswagen, on n'a aucune photo qui a été prise à l'intérieur. Parce qu'on n'avait pas forcément le réflexe de prendre l'appareil, alors que celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, on l'emmenait partout, parce que là, on l'avait emmené pour aller en vacances à Tarnos. Donc, ça faisait un peu partie du quotidien quand même, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est une tranche de vie, en fait, vraiment. Tous ces instants-là, c'est des instants dont je ne me souvenais pas forcément. Et là, du coup, il y a tout qui ressurgit, c'est assez... Et ouais, c'est ça, c'était pour s'amuser, pour des moments complètement banals, en fait, quoi. Mais du coup, c'est figé, quoi, maintenant.
C'est vraiment le quotidien.
Avec le chat, le mausolée.
Alors moi, j'ai pris mon Polaroid.
Est-ce que je peux aller me recoiffer dans la salle de bain?
Non, c'est interdit. Pas de maquillage. Alors.
Ah ben, maman au milieu? C'est moi qui commence.
Là, c'est la vieille dame qui regarde son mari partir vers le large en maillot de bain. Vous deviez être les pieds dans l'eau pour prendre cette photo.
Ouais, je me suis approchée le plus que j'ai osé, en fait. C'est en même temps, comme il fait du bruit, l'appareil, il fallait être assez discret. Il y avait le bruit des vagues, un peu de vent, donc ça allait, mais...
Et ça, c'est vraiment le début de votre travail?
Ah ouais, là, c'était toute première. Ouais, mais c'est mes toutes premières. Tout à fait. Donc il y a beaucoup aussi de photos de famille, en l'occurrence la mienne.
Donc vous avez commencé par une propre introspection familiale, un peu comme la plupart des gens, les amateurs, font du Polaroid.
Ouais, mais j'aime ce côté-là justement. Ça me fait plaisir que beaucoup de gens puissent apprécier mes photos comme eux auraient pu faire les mêmes il y a longtemps ou aujourd'hui ou... Ce côté-là où ils peuvent s'identifier, je ne sais pas si c'est le mot qui correspond, mais se retrouver, quoi. C'est pour ça que ça me convenait bien, quoi, le Polaroid, parce que c'est aussi très... Enfin, c'est très facile.
C'est facile, vraiment?
Bah, pour moi, c'est hyper facile, ouais. Ah ouais, vraiment. En général, d'ailleurs, j'en fais une ou deux. Je ne fais jamais, c'est pas comme au numérique. Vous voyez, je prends le temps, je la vois, la photo, en fait. Après, je sors mon appareil et je la fais. Mais je ne fais pas 40 photos, parce que c'est très cher. Donc comme je ne suis pas très riche, du coup, je faisais attention de faire la bonne au bon moment, quoi.
Et vous imaginez la fin du Polaroid, puisque Polaroid a annoncé la fin de la production de ses films?
Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai. Alors, en fait, comme ça fait 3 ans qu'ils annoncent la fin, au départ, c'était difficile. Et puis, voilà, au fur et à mesure, je me suis adaptée. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler au numérique. Enfin, là, c'est vraiment la fin. J'ai plus que 20 photos. Et c'est vrai que tant qu'il y en aura, je pense que je m'endetterai pour pouvoir en acheter tant qu'il y en aura, quoi.
Donc là, il vous reste 20 photos. Vous allez faire quoi comme image ?
Bah, j'ai commencé une série de portraits d'enfants, justement, et que je voudrais terminer. Donc, je terminerai là-dessus, je pense. Avec des enfants et des portraits.
C'est ces enfants qui ont l'air un peu tristes.
Ouais, voilà.
C'est ces images que j'ai vues.
Ouais, tout à fait.
Bruno Bayen, vous êtes écrivain, metteur en scène, et vous avez consacré un ouvrage au Polaroid, au SX-70 exactement. C'était votre compagnon de route pendant 25 ans quasiment. Vous avez peut-être pas consigné, mais en tout cas photographié au Polaroid. Vos voyages, votre quotidien aussi.
Certaines choses du quotidien... Des détails de la rue ou de l'appartement, ce qui semble bizarre. Voilà. Dans la vie quotidienne, c'est plutôt ce qui semble bizarre. Alors, il est vrai qu'en voyage, je me suis beaucoup promené avec mon Polaroid, tandis que dans Paris, le plus souvent, je ne pense pas l'avoir toujours avec moi. Donc, c'est plutôt certaines bizarreries du quotidien et puis les voyages. Oui.
Comment vous avez croisé le chemin du Polaroid ?
J'ai entendu, en fait je l'ai vu pour la première fois sur une scène de théâtre dans une pièce de Boto Strauss, où c'était je crois en 74 ou 75, et où il y avait un Polaroid SX-70 qui était encore très récent puisqu'il a été lancé en 1972. Et puis je l'ai revu juste à peu près à la même époque dans le film de Wenders, Alice dans les villes. Et je me suis dit que ça me convenait très bien, qu'il n'y ait pas de négatif, tout ça. Donc c'était tout à fait pour moi. Voilà, donc j'ai acheté un Polaroid. Je ne m'en suis pas servi tout de suite. Et je n'ai pas su tout de suite comment m'en servir, jusqu'au jour où j'ai commencé à photographier la télévision. Et là, ça m'a donné une idée que c'était un appareil qui ne pouvait absolument pas prendre tout. Il pouvait prendre, photographier certaines choses, pas d'autres. Et après, c'était de chercher lesquelles.
Dans le livre que vous avez consacré au Polaroid et en particulier à l'appareil, le SX-70, vous en parlez à un moment comme d'un lutin à la bonté mélancolique.
Ben, lutin, c'est un peu... Lutin, je crois que je viens de vous répondre. C'est-à-dire que il n'en fait pas qu'à sa tête, mais il en fait aussi à sa tête. Et à la d'accord pour la bonté, disons que ce qu'il réussit, je trouve, on a parfois des réussites de forme et de couleur, que je ne vois pas tellement ailleurs. Et mélancolique parce qu'il est, il rend l'instant immédiatement mélancolique.
Là, on est devant votre collection Polaroid. Donc il y a 3 caisses remplies qui sont encore dans les boîtiers des films, dans les cartons.
Mais je trouve que c'est très bien pour les comme moyen de conservation. Et puis je les ai mis dans ces caisses de vin et ils sont à l'ombre. Voilà. Je trouve que c'est un bel... Bizarrement sur le temps, en tout cas sur ces 30 ans que j'en ai fait, je trouve que ça n'a pas ce vieillissement, le même vieillissement que dans une photo... L'appareil classique.
Ça vieillit mieux.
Peut-être. En plus, on a forcément un rapport très... Enfin, peut-être d'autant plus intime que la plupart de ces photos, je ne les ai pas faites sur, au fond, des situations de famille ou des... ça n'illustre pas du tout une chose biographique de mes relations. Plutôt utilisé assez solitairement. Donc, c'est un rapport intime que j'ai avec ça.
On peut regarder quelques photos, quelques polaroïdes. On plonge dedans.
Attends, je vais... Ah oui, par exemple ça. Voilà, c'est une.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est dans un cimetière. C'est le cimetière des plaisirs à Lisbonne. Et là, j'avais utilisé un flash. C'était un jour très pluvieux. Il n'a pas. C'est beaucoup plus beau ça. Non ?
Donc, ce sont en fait des statues.
De cimetière, oui. Des plaisirs, quand même. Dos prazeres. Mais disons que moi, j'ai manié ça. Je ne suis pas photographe.
Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que vous n'êtes pas photographe. Et en même temps, devant nous, on a quand même 3000 clichés.
Voilà. Et là, c'est la tombe d'Henry Fielding, l'auteur de Tom Jones, dont je ne savais pas qu'il était enterré à Lisbonne. Vous non plus, d'ailleurs, je suis sûr.
Non.
Ça, ils sont dans... Ah oui, c'est Salzopetre. Ouais, c'est marrant, c'est celle-là. Ça, c'était à Beyrouth. En 82, une voiture protégée.
Et vous l'emmeniez partout? Parce que c'est quand même assez imposant, a priori, un Polaroid. Un appareil.
Oui, c'était... c'est un appareil qui fait qu'on vous demande de prendre quelqu'un en photo. Enfin, quelqu'un qui voit avec un... il vous propose une range contre. Alors, parfois, il faut résister suivant les provisions qu'on a. Parfois, on accepte. C'est aussi une façon d'entrer en relation avec les gens.
Puis c'est pas discret.
Ah non, c'est absolument pas discret. Enfin, ou bien il faut avoir des astuces parfois. Attendre le moment où il y aura un bruit. Ben si, parfois vous attendez le moment où il y aura un bruit pour. vous attendez le moment où il y aura un bruit pour prendre la photographie. À ce moment-là, le bruit tuera, étouffera le vôtre.
Vous photographiez beaucoup les ciels.
Oui, mais à un moment donné, je me demandais si c'était. C'est pas l'une des plus belles choses à faire d'une photographie avec des ciels. Là, c'est un ciel de février, mais par mauvais temps. Tout gris et blanc. Et là, voilà, par exemple, aussi, on arrive parfois au noir et blanc avec le Polaroid, presque.
Et c'est vrai qu'on sent dans vos photos, il y a quand même une grande solitude.
De celui qui photographie ?
Vous seriez capable de ne plus jamais faire de Polaroid ?
Ben, s'il n'y a plus de films. c'est pas moi qui choisis.
Est-ce que c'est vraiment l'apparition du numérique, avec cette idée d'instantané, qui a tué le Polaroid ?
Non, moi je ne suis pas convaincue. J'en suis pas convaincue.
C'est ce qu'on a dit, en tout cas.
Oui, parce que Polaroid a toujours été différent et s'est imposé de façon différente. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Mais pourquoi dit-on que Polaroid renaît toujours ? Mais parce que Polaroid ne peut pas mourir. Enfin, ne peut pas mourir. Il y a toujours des fans qui vont réclamer du Polaroid. Ils sont très nombreux. Moi, depuis 10 ans, je trouve que tous les ans, on dit que le Polaroid renaît. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas mort, honnêtement. S'il renaît tout le temps, c'est qu'il n'est pas mort.
En même temps, aujourd'hui, il n'y a plus de production de films Polaroid adaptés aux appareils qu'on connaît.
Ah si, l'impossible projet, Hollande. Si les auteurs de l'impossible projet aboutissent, je pense que ça ne disparaîtra pas, ça restera un marché de niche. Polaroid est mort depuis que j'ai quitté Polaroid en 99. Polaroid a été racheté 3 fois. Une fois par des banques. Les banques n'ont pas jugé utile de poursuivre puisque la rentabilité n'était pas suffisante. Une seconde fois par Peter, qui est actuellement en prison.
Tom Peters. Qui a été un repreneur et qui finalement s'est avéré être un escroc.
Oui, une sorte de Madoff, d'ailleurs. Hein, un petit Madoff. Et puis, plus récemment, là, depuis le mois de mai 2009, par cette société aux États-Unis, Canada.
Donc pour vous, le fait qu'on reprenne Polaroid, c'est qu'on ne veut pas que cette technologie-là ou cette histoire meure ?
Oui. Mais c'est aussi parce que les photographes aujourd'hui qui n'ont plus de pellicule, ils ont encore des choses à dire avec leur pellicule. Ils sont très très malheureux.
Sans Polaroid ?
Oui, sans Polaroid. J'ai eu des milliers d'appels, j'exagère peut-être, mais beaucoup d'appels pour me demander mais où je peux avoir du film, où je peux m'en procurer.
Vous, Philippe Garcia, vous appartenez à cette génération de nouveaux passionnés de Polaroid. Vous, les films Polaroid, vous les trouvez où aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, les films Polaroid, je les commande via Internet, soit sur des sites spécialisés, soit sur des sites de vente en ligne, vente aux enchères, genre eBay, quoi. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'imagine difficilement que mes appareils Pola soient sur une étagère et puis qu'il n'y ait vraiment plus de films pour mettre dedans et qu'on ne puisse pas s'en servir. Ça serait vraiment... assez catastrophique pour moi. Et donc voilà, en fait il y a eu des mouvements, il y a eu des communautés qui se sont un peu bougées, qui ont essayé de négocier avec Polaroid, avec Fuji également, qui fait des films compatibles. Et finalement il y a eu une société qui à la base est une société de distribution de produits photographiques qui est située en Autriche et qui a lancé le projet de refabriquer des films intégraux pour Polaroid. Donc cette société s'appelle Impossible et donc ils ont donc lancé ce qu'ils ont appelé le Impossible Project, le projet impossible de relancer une fabrication en partant de zéro quoi, puisqu'ils n'étaient pas du tout fabricants de films. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait le nom Impossible, il vient d'une citation d'Edwin Land, le créateur du Polaroid, qui avait dit au moment où il avait lancé son projet de photographie instantanée, il avait dit qu'il ne fallait pas entreprendre un projet à moins qu'il vous paraisse impossible.
Impossible n'est pas Polaroid.
Quelque chose comme ça, sans doute, oui.
En 2010, il y aura des films Polaroid à nouveau.
Oui. En fait, les films sont déjà au point, hein, ils sont déjà en test et ils sont normalement commercialisés donc en très peu de temps. Donc ça va soulager beaucoup de monde.
Il faut voir le nombre de blogs qui existent sur Internet sur le sujet Polaroid. Tout le monde a son point de vue, se communique des informations. Ah oui, c'est amusant ce phénomène. C'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas à la disparition de Polaroid. Il y a des univers qui disparaissent, mais celui-là, alors que le numérique, évidemment, existe. Mais regardez ça. Ou on peut dire, alors, à ce moment-là, que ça n'en finit pas de mourir. Bon, je préfère dire que ça n'en finit pas de renaître.
C'était Paula, je t'aime.
D'accord, oui. Non, si vous voulez bien vous rapprocher un petit peu.
Avec Marie-Christine Guyot, Cécile, Stéphanie et Laetitia Labadie.
Et voilà, vous, encore un petit peu.
Michel Nuridzani, Bruno Bayen, auteur de Pourquoi pas tout de suite, paru aux éditions Melville.
Encore un peu.
Voilà. Philippe Garcia, auteur de Zoom sur le Polaroid technique et artistique chez Pearson Éditions. Et Marion Dubier-Clark.
Merci. En fait, tourner le visage un petit peu plus vers la lumière, voilà.
Merci à Nicolas Delorme, attachée de production, Laure-Hélène Planchet et Christine Gage.
Alors, vous gardez votre visage comme ça, mais vous me regardez moins, en fait. Voilà, super.
Sur les docks, Céline Develay-Mazurel, Yvon Croisier.
Parfait, vous êtes superbe. I'm never lonely. Whenever you are inside, I know I love you. And you alone were meant for. Please give your loving, 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 loving a heart to me. And tell me we'll never part.
I think of you every morning. Dream of you every Loving, 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 love my heart. And Shimmer will never, 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 never part. My darling, I love you.
Comme un Polaroid, en un clic, vous pourrez photographier sonorement cette émission grâce au podcast. Demain, un autre rêve, celui de l'immortalité et la réincarnation, y inclus en Occident. En attendant, un peu de musique et à 18h, le journal de la rédaction de France Culture.